Europe 1.
14h, 15h.
Clap. Laurie Choleva.
Bonjour et bienvenue sur Europe 1, il est 14h et comme chaque samedi, c'est Clap, votre rendez-vous cinéma qui démarre. Je suis très heureuse de vous retrouver, alors sans plus attendre, je vous parle du menu du jour. Dans la première partie, on évoquera le devoir de mémoire, la transmission, grâce au film Trop d'amour de Francky Valac. Je vous emmènerai aussi en pleine nature découvrir la merveilleuse amitié entre un loup et un lion. Enfin, Didier Alouche nous parlera cette semaine des Oscars qui se préparent à Hollywood. À 14h20, mon invitée est une actrice qui nous a tant fait rêver, de Lelouch à Claudel en passant par Piala. Elle incarnera bientôt Simone Veil au cinéma sous la direction d'Olivier Dahan. Mais aujourd'hui, elle va nous parler d'une comédie épatante, Tout nous sourit. Elle reviendra également sur les films de sa vie, notamment celui qui a marqué son adolescence.
Pulp Fiction, parce que d'un coup c'était waouh. Puis j'avais fait les essais, en fait à 19 ans, j'étais à New York.
C'est vrai que j'ai lu ça.
J'ai fait les essais de Pulp Fiction. J'ai pas été retenue pour le rôle de Maria de Medeiros. Et c'est un film qui m'a foutu un coup, tellement je trouvais ça génial.
Enfin, dans la dernière partie, accompagnée de mes critiques, nous passerons en revue l'actualité du cinéma et la sortie de Eiffel ou encore Julie en 12 chapitres. Voilà le programme de votre Clap qui commence maintenant.
14h, 15h, Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
La semaine dernière, Didier Alouche nous parlait du succès de Titane aux États-Unis. Titane, je vous le rappelle, Palme d'Or au dernier festival de Cannes. Eh bien, ça y est, la grande annonce est tombée cette semaine. Titane vient d'être choisi pour représenter la France aux Oscars. Après Grave, c'est le second long métrage de Julia Ducournau, un film de genre qui dérange autant qu'il fascine.
La monstruosité, c'est une arme, c'est une force. Et merci au jury de laisser rentrer les monstres, de reconnaître avec ce prix le besoin avide et viscéral qu'on a d'un monde plus inclusif et plus fluide. Merci à tous du fond du cœur.
J'aimerais également vous parler d'un événement sur la chaîne Ciné+, car le cinéma, la télévision, c'est sympa aussi parfois. Alors Ciné+, va vous faire voyager dans le temps avec l'opération Ciné+ Histoire qui a lieu jusqu'au 31 octobre. Au programme, plus de 30 films sur les grandes figures de notre ère, de Cléopâtre, Une reine pour César, au procès de Jeanne d'Arc, en passant par Madame Bovary ou encore Jane. Ce sera donc l'occasion de découvrir ou redécouvrir le destin de légendes qui ont marqué l'histoire. Et en parlant d'histoire, j'ai eu un vrai coup de cœur pour un film qui passe en ce moment sur Canal+, et donc disponible sur MyCanal, Trop d'amour, d'une jeune réalisatrice, Francky Valac, un film qui mélange la fiction et le documentaire avec des acteurs professionnels mélangés aux véritables membres de la famille de la réalisatrice, et surtout sa grand-mère. Alors Francky Valac, elle raconte son histoire, celle d'une cinéaste fascinée par la vie de sa grand-mère et plus particulièrement par le fait qu'elle soit rescapée des camps nazis. C'est un film qui parle de la Shoah, mais pas que. C'est surtout un film qui questionne sur les liens du sang, la famille, ce qu'on fait de cet amour parfois débordant, envahissant, pourquoi tant de non-dits au sein d'une famille, pour finalement arriver à la conclusion qu'il n'y a jamais trop d'amour dans une famille.
Francky veut faire un film avec moi en vedette.
Pour tes 94 ans, j'aimerais que tu existes autrement en tant que déporté.
Dans la vidéo, on va demander aux gens s'ils peuvent me donner de l'argent pour financer mon film.
Mais bon, ils vont croire que je suis fauché.
Mais non!
Et pourquoi tu créerais pas un petit rôle pour moi?
Mais c'est sérieux ce projet, papa.
S'il vous plaît, silence, plateau!
Très émouvant. Et enfin, comme c'est le week-end, si vous voulez un conseil de sortie en famille, il est encore une fois question de famille, cette fois retour au cinéma avec Le Loup et le Lion. C'est le nouveau film du cinéaste Gilles Demestre, un cinéaste que j'aime beaucoup pour son cinéma engagé en faveur de la nature, l'environnement ou encore la planète. Après avoir réalisé Mia et le Lion Blanc, cette fois, c'est l'histoire d'une amitié entre deux animaux sauvages que tout oppose, un lion et un loup.
J'avais plus que lui.
Ton grand-père ne faisait jamais rien comme tout le monde.
Je me suis fait une nouvelle copine. C'est une louve. Elle vient souvent me voir.
Qu'est-ce que tu fais? N'aie pas peur. T'as eu un bébé?
Joe, tu vas jamais le croire. Viens voir. Il y a un louveteau, un lionceau et...
Bon sang, qu'est-ce que c'est que ça?
C'est une copine de grand-père.
Quoi?
Ils sont inséparables.
La louve est pas revenue. Je vais devoir m'occuper d'eux.
C'est bien plus qu'un film, c'est une vraie aventure. Il a été réalisé sans trucage. Il a donné naissance à cette amitié forte entre ce loup et ce lion qui aujourd'hui sont gardés dans la même réserve tellement ils sont devenus inséparables. Vraiment, c'est un très joli film que je vous recommande. On va voir si vous avez été séduit.
Moi, j'ai bien aimé parce que il est tombé de sa boîte dans le nid de l'aigle et puis le, L'aigle, il l'a jeté de son nid.
Les loups et les lions, c'est les top des tops. Ils deviennent une famille ensemble. C'est magnifique.
C'était très bien, très beau.
On a trouvé ça excellent. Les animaux, c'était très bien parce qu'ils sont pas du tout humanisés.
Et puis maintenant, on part retrouver Didier Allouche qui nous parle de Los Angeles, mais depuis Lyon. Ça fait moins de miles.
Salut Laurie, salut à tous. Vous ne le savez peut-être pas, mais cette année, la route des Oscars passe par Lyon. Oui, notre Lyon, à nous. En ce moment, à Lyon donc, nous sommes en plein Festival Lumière, le festival des films anciens chapeauté par l'Institut Lumière. Un festival devenu un must pour les amateurs de cinéma qui pourront y revoir ou découvrir en copie restaurée des centaines de films comme par exemple Les Trois Jours du Condor, Le Cave se rebiffe ou La Leçon de Piano, puisque l'invité d'honneur du festival n'est autre que sa réalisatrice Jane Campion. Et depuis maintenant quelques années, le festival s'ouvre aux avant-premières. Jusque-là, c'était souvent des films français qui sortent autour des dates de la manifestation ou quelques films américains que des réalisateurs amis de l'Institut envoyaient en cadeau fait aux festivaliers. Mais cette année, les choses changent. Un studio a vu dans le festival l'occasion de promouvoir ses films dans la course aux Oscars. Netflix, puisque c'est de ce studio qu'il s'agit, est venu en masse à Lyon avec pas moins de 4 films en avant-première au festival. Il y a d'abord La Main de Dieu de Paolo Sorrentino, le film que l'Italie devrait envoyer dans la compétition pour le meilleur film étranger. Puis The Lost Daughter et Clair Obscur, les premiers films réalisés par deux actrices, Maggie Gyllenhaal et Rebecca Hall. Et The Power of the Dog, le nouveau film, un western de Jane Campion.
Ce n'est qu'un homme. Un homme, rien de plus.
Quatre films aux intentions oscarisables, plus que clairs, qui suivent l'exemple de glorieux prédécesseurs, puisque La Forme de l'eau de Guillermo del Toro ou Nomadland de Chloé Zhao sont eux aussi passés par Lyon avant de sortir en salle et de finir tous deux grands vainqueurs aux Oscars. Tous ces films ont fait le tour des festivals d'automne, Telluride, Venise, Toronto, New York, etc. Des arrêts obligatoires sur la route vers Hollywood Boulevard et des destins dorés. Lyon et son festival Lumière semblent s'être ajoutés à la liste. Le label Lumière est devenu un gage de qualité pour les amoureux du cinéma, aussi bien du côté du public que des professionnels, et ça se sait jusqu'à Hollywood. Pas étonnant donc que de plus en plus de cinéastes aient envie d'inscrire l'étape Lyon sur leur route vers les Oscars.
Merci Didier, à la semaine prochaine.
Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Merci d'être avec nous, c'est Clap qui continue votre rendez-vous cinéma. Et dans cette deuxième partie, j'ai le plaisir de recevoir une actrice française iconique. Elle passe de la comédie au drame avec une aisance folle. Elle a tourné avec les plus grands, elle est toujours très juste et captivante. Bonjour Elsa Zilberstein.
Merci, bonjour, c'est trop mignon.
C'est
de venir.
Vrai, et c'est sincère. En plus, vous savez quoi, qu'on vous aime beaucoup. Ouais, est-ce que vous allez bien?
Très bien, merci.
Donc dans ce marathon de promotion de ce film qui est un vrai petit bijou, Tout nous sourit, qui sort le 20 octobre. Je rappelle que le film a eu 3 prix au Festival de Comédie de l'Alpe d'Huez, dont le prix d'interprétation féminine pour vous. Vous devez avoir hâte de le présenter au public.
Oui, j'ai hâte parce que vraiment à l'Alpe d'Huez, l'accueil était dingue. Ce qui est drôle, c'est aussi le jury qui nous a donné les 3 prix. À la fin, ils étaient tous debout en pleurs. Donc on s'est dit, oh là, c'est pas bon signe. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un mélange dans ce film où tu ris énormément et en même temps, t'es ému. Elle a une manière en fait de mélanger, d'entremêler le rire et le drame de manière assez brillante.
Ouais, Mélissa Drigard,
la réalisatrice. Et de camper une situation de départ, une famille, tout ce qui est normal. Bon, moi, je prends un amant au départ un peu pour me donner un frisson. Mon mari prend une maîtresse. Et puis, patatras, tous ces gens-là se retrouvent dans une maison de campagne avec mes parents qui débarquent et les enfants.
C'est un peu ça démarre comme un vaudeville.
Exactement.
Effectivement, c'est quand même une femme où, en apparence, tout lui sourit.
Oui.
Et puis finalement, bon, bah voilà, tout va partir en éclat pendant ce week-end à la campagne. Mais c'est bien plus qu'un vaudeville. Enfin, ça n'a rien à voir. Non, non. C'est vraiment un film plein d'émotions et tellement drôle, tellement rythmé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seconde de répit dans ce film.
Ouais, c'est drôle. Il y a un côté feel good aussi dans ce film. Et en même temps, je trouve qu'elle parle des relations vraiment profondément de qu'est-ce qu'on donne à voir en couple quand on aime plus, quand on aime encore, mais qu'on doute, on sait plus trop où on en est dans son couple. Qu'est-ce que ça veut dire d'aller voir ailleurs? C'est un frisson ou c'est vraiment vrai? Est-ce qu'on aime encore l'homme qu'on aime quand on le trompe? Et puis, qu'est-ce qu'on donne à voir à sa famille, à ses enfants, à ses parents, comme image? Qu'est-ce qu'on veut renvoyer? Enfin, tous ces jeux de masques et de mensonges que se joue une famille, est-ce qu'on sait tout des autres dans une famille?
Et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'ils se mentent tous entre eux, mais surtout à eux-mêmes aussi. C'est aussi un film à la croisée des chemins. En fait, c'est la vie, tout simplement. On a des moments de doute, on a des périodes où on va plus ou moins bien, on coupe. C'est pas parce qu'on ne s'aime pas, mais on peut se perdre, on peut se retrouver. On peut se disputer avec sa sœur, on peut se disputer avec ses parents. Et en même temps, à la fin du film, on a juste envie de faire un gros câlin à toute notre famille, à tous les gens qu'on aime.
Exactement, exactement. Et ils se sont fait croire certaines choses et puis ils se sont cachés des choses. Elle cache des choses à ses parents aussi, eux aussi lui en cachent. Enfin, en fait, c'est un film, il y a beaucoup d'amour, je trouve. Hein, parce que tout le monde veut protéger tout le monde. La sœur Émilie Kahn, qui est géniale, à un moment, mon couple va pas du tout. Elle vient dans la chambre, elle dit « Ah, vous êtes engueulée encore ». On lui dit « Non, non ». Elle dit « Bah, vous, ah, ok, bah, alors séparez-vous, vous allez voir ce que c'est d'être seule. Tu vas faire les petites applis, tu vas rencontrer quelqu'un, puis très vite, tu vas plus être invitée à des dîners. » Et elle fait tout le déroulé de ce que c'est la vie en célibataire. D'un coup, on est là, et je lui prends la main. Voilà, et je trouve qu'il y a plein... En fait, je pense que les femmes et les hommes peuvent se retrouver, les couples aussi, et ça peut leur parler. Et puis même les filles, je pense qu'il y a plein de types de femmes décrites. Et même mon personnage d'Audrey, elle est trouble, elle est enfantine, elle a une émission de télé de gastronomie, de découverte,
voilà, de bien-être. Voilà. On la reconnaît dans la rue, elle en est très fière.
Voilà, elle est un peu connue, donc elle est un peu narcissique comme ça, elle est contente. Et puis c'est un moment où elle vacille, elle perd pied. Et...
avec le pizzaiolo, enfin qui...
Voilà, elle a une petite histoire avec un très bel Italien qui tient un resto italien au coin de la rue, voilà.
Et son mari, donc, est interprété par Stéphane de Groot,
voilà,
qui est infidèle aussi et qui a eu donc la même idée puisqu'il va dans la maison de campagne. Et lui, il emmène une étudiante très brillante, très lettrée, qui est jouée par Carrie Jatouré, qui est fantastique aussi dans le film.
Ouais, il emmène cette fille et elle me sort par les trous de nez au moment où moi j'emmène un amant et que mon mari me découvre. Ce que je trouvais aussi vachement original, c'est dès qu'il nous découvre, je veux pas spoiler le film parce que c'est le début, mais je voulais que ce soit... Enfin, c'était beaucoup moins intéressant de prendre le parti pris. J'ai dit à Mélissa, je dis, mais elle aime son mari encore. En fait, je voulais, on avait travaillé dans le sens où c'est un drame que le mari la voit. C'est un drame, tout s'écroule, son monde s'écroule à cette seconde-là, alors qu'elle, elle a juste voulu peut-être se faire un week-end un peu... comme ça, pour changer les idées et se faire...
Oui, et puis pour se prouver peut-être des choses aussi en tant que femme.
Voilà, parfois. Exactement. Et du coup, et quand elle voit que lui aussi a une maîtresse, alors là, elle part en vrille, quoi. Elle est et surtout une fille un peu plus jeune qu'elle, très brillante. Mon personnage Audrey, elle a des goûts populaires, elle dit qu'elle aime Christophe Maé, qu'elle aime... Voilà, c'est une fille très dans la vie, très vivante.
Alors justement, il faut pas se moquer de Christophe Maé.
C'est pas assez bien pour toi, ce que j'écoute? C'est pas assez chic, c'est ça?
Audrey, qu'est-ce qui te prend?
Bah ouais, j'ai des goûts populaires. Et je t'emmerde. Oui, j'aime Gilbert Bécaud et Christophe Maé, et même Patrick Bruel.
Mais c'est pas pour autant qu'il faut...
Franchement, c'est tellement sympa, Christophe Maé, en même temps, pour démarrer la journée de bonne humeur.
C'est vrai, c'est vrai. J'aime beaucoup.
Cette scène, elle est magnifique, parce que juste avant, il danse, il y a une espèce d'ambiance, comme ça, un petit moment suspendu. Et puis bon, bah voilà, elle pète un câble quand même, littéralement.
En fait, ce qui est beau, c'est que tout est en train de s'écrouler dans sa vie. Enfin, le sol est en train de s'ouvrir et tout le monde se ment, elle sait plus ce qu'elle ressent, son mari est avec sa maîtresse dans la maison.
Et puis, il ment au père aussi, il y a un mystère, il y a beaucoup de mensonges dans cette famille.
Le père qui, on sait pas, on va apprendre des choses sur lui, et puis pour protéger le père, ils lui mentent aussi. Mais c'est vrai que tout d'un coup, tout s'écroule, et là, elle se prend de plein fouet, ok, moi je veux bien tromper, mais quand l'autre y tombe, ça va pas du tout.
Et c'est ce qui est très drôle aussi sur cette scène, que moi j'ai adoré, c'est à un moment donné, je crois que c'est l'un de ses enfants qui naît, c'est très gênant là, quand même.
Oui, au moment, genre, on le savait, enfin, je veux dire que ça allait pas entre vous. Genre, on a voulu vous planquer, mais non, pas du tout. Bon, allez, arrêtez, vous êtes en mytho, les deux là, qu'est-ce qui nous... Genre, on protège aussi nos enfants, on leur dit pas la vérité, et je trouve que c'est hyper... C'est vraiment bien écrit, c'est Mélissa Dreja et Vincent Juillet, son co-scénariste.
Oui, alors, cette scène, elle va quand même très loin, jusqu'au moment où vraiment... votre personnage, elle devient pathétique. En fait, on a de la peine. Elle nous fait beaucoup rire, mais on a quand même pas mal de peine pour elle.
Moi, je suis une vraie femme, moi. Moi, je passe à la télé. Moi, je fais 15% de part de marché. Moi, on me reconnaît dans la rue à Paris. C'est pas vrai, Valérie, qu'on me reconnaît dans les rues de Paris?
Je n'habite pas à Paris, je me rends pas compte.
Oui, bon. Et puis moi, j'ai de beaux enfants. J'ai une super maman. J'ai une super femme. Je suis belle. Je fais du pilates. Je mange plus de viande. J'ai une très belle robe. Elle est belle, ma robe, non?
faites du pilates,
moi, j'en
Elsa,
fais beaucoup,
dans la vie. Vous avez des belles robes aussi, parce que pendant le confinement...
J'ai du pilates.
Vous êtes beaucoup postée. C'était d'ailleurs très agréable de vous suivre.
Merci.
Non, mais ce personnage, qu'on l'aime.
Ah, le rôle est dingue. Ouais, j'adore. Vraiment, quand je l'ai lu, j'ai fait waouh, le rôle est fantastique. Quoi. C'est un cadeau, un rôle pareil. Ouais.
D'après vous, c'est quoi la réussite d'un couple, alors?
J'ai envie de dire, ne pas tous dire, malgré tout. Ah, c'est mystérieux. Alors vraiment, j'ai pas de clé, moi. D'être assez... en tout cas, d'être là, qu'on doit être là, d'être assez honnête l'un envers l'autre, quand même. D'être bien dans ses bottes, de pas se mentir à soi-même, avant tout, et d'essayer d'être là où on doit être. Et puis, si ça va plus, de parler, on va dire, le dialogue.
Le dialogue. Ouais. Alors, il y a cette scène de repas. Anthologie qui restera, je pense. Repas de famille où en fait personne ne comprend vraiment ce qui se passe, et avec Stéphane De Groot, donc votre mari, vous réglez vos comptes.
Elle est démente, cette scène. Elle est démente parce que donc on ment aux parents. Les parents pensent que ce sont deux amis qu'on vient d'inviter. Alors en fait c'est juste mon amant et sa maîtresse. Et eux jouent le jeu de faire comme s'ils se connaissaient, qu'ils étaient ensemble. Et donc c'est absolument grotesque. La scène est folle. Et moi je découvre qu'ils se la tapent depuis 6 mois. Donc je deviens folle aussi. Enfin, et ma mère qui raconte des anecdotes qui prennent 3 heures.
Qui joue par Anne Benoît, qui est magnifique. Et Guy Marchand qui joue avec
Guy Marchand, voilà. Donc cette scène est très très drôle. Et Alberto, l'italien, se met à jouer de la guitare. Et mon mari devient fou, il pète la guitare.
Tu donnes des conseils aux gens à la télévision sur la santé et tu fumes comme un pompier.
Mais je fume pas comme un pompier.
Bah, non, enfin, Suzanne, vous voyez bien qu'Audrey ne fume pas. Enfin, ça se voit, elle fume pas. Audrey, elle a une vie très équilibrée. C'est une femme irréprochable. Mm-hmm. Hein, et une mère parfaite.
Tu rigoles ou quoi? S'il y a vraiment quelqu'un de parfait dans ce couple, c'est toi. Tu pourrais étaler ta culture, prendre toute la place, t'écouter parler, mais non, jamais.
Cette scène, elle est très drôle parce que c'est drôle en fait de l'écouter d'ailleurs sans les images à la radio, parce qu'on sent vraiment la puissance et la rage.
En fait, on voulait qu'il soit dans un discours totalement. Il parle comme si de rien. En fait, il découvre des choses de l'un et de l'autre et ils sont dans une nervosité. Abyssal et ils s'envoient des pics non-stop. Toi t'es parfait, mais non, c'est toi qui es parfait. Et puis voilà, et puis j'apprends qu'il la voit depuis 6 mois. Et puis et voilà, et tout. Il y a une tension absolue pendant la scène. Ouais.
Vous avez beaucoup ri sur le tournage?
Non, moi je ris pas quand je tourne du tout.
C'est vrai.
Non, prendre pour une folle.
Mais la comédie, ça demande beaucoup de rigueur.
C'était pour vous dire ça en fait. Les gens pensent que quand on fait une comédie, on se marre pas du tout. Enfin, oui, il y a des situations qui peuvent faire qu'on explose de rire à la fin d'une scène. Mais quand t'es dans un rôle, t'es avec ton personnage et t'es pas là pour te marrer, quoi, en fait. En fait, les personnages, ils vivent un drame. Ils vivent un drame. Eux, ils sont sur le fil. Mon personnage, elle est super tendue. Elle vient de se faire. Elle pense que son couple est fini. Non. Moi, j'ai fait ça comme si on était dans un Bergman, limite. Enfin,
ouais, mais c'est
non,
vrai
mais je rigole
c'est
pas. C'est
Bergman.
Ils vivent un truc de couple. Et c'est vrai quand même si tu fais rire au final, le grand propre pour moi des grandes comédies, c'est d'être avec le personnage et toi, tu te marres pas quand tu le fais. Après, tu peux te marrer parce que les scènes sont drôles, des moments et voilà. Mais la scène où je pète un plomb et je lui balance des trucs à la figure, je peux vous dire que j'étais en larmes à chaque prise, quoi. Donc. C'est pas là pour te marrer, quoi.
Et d'ailleurs, pareil, hein, on ne vous dévoile rien, mais il y a quand même une sublime scène à la fin avec Anne Benoît qui nous transperce le cœur.
Ouais. Oui, pareil, ça. D'ailleurs, je trouve qu'elle traite très, très bien les ados, les
toutes
adultes,
les générations.
Ouais, et les parents, qui sont aussi dans leur relation à eux. Il y a beaucoup de tendresse, énormément d'amour. C'est très beau, le couple Guy Marchand et Anne Benoît.
Vous l'avez revu récemment, le film?
Ouais, je l'ai revu récemment.
Vous êtes dit quoi?
J'arrêtais pas de dire à la réal, qu'est-ce qu'il est bien, le film! Genre, comme si j'avais oublié. Pourtant, je l'ai tourné, je l'ai vu déjà 2-3 fois.
Mais vous avez beaucoup tourné entre aussi.
J'ai tourné entre, et du coup, je me le suis fait pour l'avoir clairement dans la tête. Vraiment, je trouve le film est très réussi.
Il y a une très belle phrase de Guy Marchand dans le film, hein, qui dit « C'est touchant toute l'énergie qu'ils mettent à me mentir.
Ouais. »
C'est ça aussi parfois de s'aimer.
Absolument.
C'est de ne pas tout se dire.
Et surtout, d'un coup, au bout d'une heure et quart de film, tu dis « Ah mais en fait, il a tout compris. » C'est-à-dire qu'ils sont tous là à lui mentir pour le protéger parce qu'il n'est pas en forme. Et en fait, il a tout vu. Ça, c'est vraiment joli de voir comment tous les points de vue, la fille qui dit mais c'est quoi ces mythos ? Ah oui, donc toi tu viens, le pizzaïolo il sort avec cette fille qu'on connaît pas et tu sais pas ce qu'elle mange au petit déjeuner. Enfin, comment tous ces gens sont dans un
cas de mensonge.
Voilà.
Et puis le votre plus jeune fils qui a son casque sur les oreilles,
très drôle,
et qu'on a l'impression qu'il capte rien, en fait,
il comprend tout. Exactement, ça c'est chouette aussi, vraiment.
Faire confiance à vos enfants, ils comprennent tout.
Voilà, voilà, exactement.
Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Merci de passer cette heure en notre compagnie. C'est Clap et je reçois cette semaine l'actrice Elsa Silberstein, tellement émouvante et drôle dans la comédie de Mélissa Drijard. Tout nous sourit mercredi prochain, donc le 20 octobre au cinéma. Elsa, le cinéma est entré tôt dans votre vie, non ?
Ouais, à 17 ans et demi, ouais.
Alors si je vous demande votre meilleur souvenir de cinéma ?
J'ai pensé, je me dis, il y avait plusieurs souvenirs, mais je sais pas pourquoi, au cinéma, j'ai un souvenir au Max Linder de la projection du piano de Jane Campion. J'étais sortie de là, je me disais non mais je peux même plus sortir de ce film. Quoi. Je voulais rester à la deuxième séance et d'être dans un coton, dans une atmosphère absolument folle. J'avais aussi ça pour Breaking the Wave, je me souviens des films comme ça qui t'emportent et où tu veux plus sortir.
La leçon de piano qui est restée pendant longtemps l'unique palme d'or décernée à une femme au Festival de Cannes jusqu'à cette année.
Ouais.
Parce qu'on rappelle que c'était Titane de Julia Ducournau. C'est vrai que c'était un film magnifique.
Extraordinaire. Qui vieillit pas. D'une sensualité, d'une intelligence, d'une beauté, d'une violence. C'est un grand, grand film.
Et vous l'avez vu au Max Linder, qui est donc une salle parisienne.
Ouais.
Et c'est l'un des plus beaux écrans de France. Hein.
Voilà.
Votre première grande émotion au cinéma ?
Dans ma chambre de petite fille, j'étais tombée sur Adèle H. J'avais vu Adjani jouer, François Truffaut. Et je m'étais dit, c'est ça que je veux faire. J'avais vu...
C'est ce qui vous a donné envie de faire du cinéma.
Je crois que c'est une des scènes, quand je l'ai vue jouer, certaines scènes de ce film, elle me parlait. Je me suis dit, c'est cristallin, c'est passionné, ça va au cœur, comme presque une sculpture de Giacometti. On est à la racine, on est dans la vérité, on est dans un truc absolument fabuleux qu'elle transmettait.
C'est un film déchirant. Elle joue la fille de Victor Hugo qui était atteinte d'érotomanie. L'érotomanie, c'est quand on a l'impression délirante d'être aimée par quelqu'un.
Ouais.
Elle sombre dans la folie, elle est isolée.
Elle écrit des lettres à cet homme, le docteur Pinson. J'avais même travaillé une scène au cours de théâtre, cours Florent.
Et vous étiez toute jeune à l'époque.
Ouais, j'avais 17 ans et demi.
Le film que vous revoyez sans cesse ?
Moi, c'est Chantons sous la pluie. Que je regardais tous les mercredis en rentrant de l'école, alors, à partir de 14 ans, je peux pas vous dire pourquoi, j'étais bien dans ce film. Je voulais pas en sortir. Moi, j'ai fait beaucoup de danse classique, donc, je rêve un jour de faire une comédie musicale. J'adorais Debbie Reynolds, j'aimais leur amitié, comment le matin ils se réveillaient, tout était gai. En fait, c'est un film qui donne envie d'être dans le film, alors là, pour le coup.
Oui, ouais. C'est vrai que c'est un film où il fait bon vivre.
On
peut y être.
Cathy Seldon, comment il la rencontre, comment elle tombe dans sa voiture. D'un coup, elle rencontrait la star, Jane Kelly. Je sais pas, ça me faisait totalement rêver.
La musique.
Real's day. And I'm happy again. I'm laughing in the clouds.
C'est vrai que je vous verrais bien dans une comédie musicale. Bah pourquoi ça ne s'est jamais fait ?
On m'en a jamais proposé.
C'est vrai ?
Non.
C'est dingue ça.
Ouais.
Bon. Alors voilà, affaire à suivre.
Voilà, exactement.
Votre comédie romantique préférée ?
Alors j'ai envie de dire, il y en avait plusieurs, mais j'ai pris Notting Hill. Parce que je ne cesse, chaque fois que je retombe dessus, je reste. Quand elle dit I'm just a girl in front of a boy asking him to love her.
On peut mourir.
Donc quand elle va dans la librairie, qu'elle va le revoir et tout, je sais pas, c'est le comble du romantisme, cette scène où il passe et que les époques qui l'attendent, qui se sont séparées et que c'est l'été, l'automne, l'hiver et qu'il marche dans ce marché, je sais pas, c'est comble du romantisme ce film.
Et puis ça se passe à Londres, à Notting Hill,
c'est
beau, c'est Julia Roberts et Hugh Grant au sommet de leur art.
Ouais.
Et puis Roger Mitchell, le réalisateur qui est décédé le mois dernier
d'ailleurs. Je savais pas.
Ouais, le réalisateur de Coup de foudre à Notting Hill.
Je peux mourir quand il lui demande. Do you intend to stay in London for a while?
J'avoue, c'est
à la fin. Indefinitely, elle dit. Indefinitely.
C'est ouf.
À la fin.
Vous auriez été merveilleuse dans ce film aussi, hein, Elsa.
J'adore. Elle a les yeux qui brillent, de gros plans comme ça avec sa veine qui sort ici. J'adore.
Ça donne envie de retomber amoureux. Ouais, ça donne envie de. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Le film dans lequel vous aimeriez vivre, alors on l'a dit tout à l'heure un petit peu, il y a Chanson sous la pluie.
Breakfast at Tiffany's, parce que j'ai une passion pour Audrey Hepburn. J'adore ce film parce qu'en fait, c'est un film qui apparemment est léger, en fait, pas du tout, du tout. Cette fille qui part un peu en vrille, qui sort, qui s'étourdit. Et en fait, tu découvres le lien à un homme, à son père, à tout ça. Et ce voisin bienveillant qu'elle ne voit pas et qu'elle veut pas voir. Et puis à un moment, les masques tombent là aussi. C'est beau comment elle est sous la pluie à la fin avec son petit chat et elle accepte de se faire aimer. Et elle est toute simple à la fin. Elle enlève tout ce... Je sais pas, j'adore ce film. Il y a une folie, une gravité qui me plaît. Et puis, bon, j'ai une passion pour Woody Allen. Alors, j'ai pris Manhattan.
Film en noir et blanc.
Ouais, et puis, il y a des scènes magiques quand Margot Winway, à la fin, elle est plus mûre que lui, qui est plus âgée qu'elle. Il lui dit, mais pourquoi tu pars à Londres? Je sais pas, elle est plus mûre, elle lui incule, elle lui dit, mais sois patient, attends-moi. Elle lui dit à la fin, trust you my nature. Et lui, il comprend pas qu'elle puisse lui dire à 20 ans de faire confiance à la nature humaine. C'est très beau, je trouve.
Bah, les dialogues, de toute façon, Woody Allen, c'est...
Et puis, j'ai envie d'être sur sous-pont, j'ai envie d'être dans les restos avec eux, tout, tout.
Le film de votre jeunesse?
Bah, c'est Chanson sous la pluie.
Voilà. Il y a beaucoup de films musicaux, quand même, dans les films de votre vie.
Ouais. Non, Chanson sous la pluie, beaucoup. Et puis, Cabaret aussi, de Bob Fosse, qui est un film qui m'a... Mais c'était un peu plus tard... Je sais pas pourquoi. Là, je pouvais plus partir de la salle, pareil. Et pourtant, c'est grave, c'est la guerre, c'est la montée du nazisme. Mais parce que l'ambiance des cabarets, encore une fois, pour ma passion de la comédie musicale, j'aurais voulu vivre avec le couple à trois, là. Je sais pas. elle est merveilleuse. Tout me plaît dans ce film. Voilà. Come hear the music play.
Life is a cabaret, old chum. Liza Minnelli.
Come to ma passion, je l'adore. C'est une idole pour moi.
Moi aussi.
Voilà.
Mais vous aimez bien aussi vivre dans d'autres époques.
Ouais.
On a l'impression que vous avez une nostalgie de...
Ouais. Oui, j'adore les films d'époque, j'adore les films quand ils sont bien faits, de rentrer dans un monde comme ça, quand c'est des grands metteurs en scène, c'est... Là, je me suis fait Apocalypse Now l'autre jour. La claque encore. Mais voilà, j'adore rentrer dans des univers forts et pas en sortir.
C'est aussi toute l'essence du cinéma, hein, c'est de nous faire voyager là où on ne peut pas forcément aller.
Exactement.
Le film que vous recommanderiez à un enfant?
J'ai dit Toy Story, parce que même pour un adulte, le film est génial, je trouve. J'ai envie d'être tout d'un coup avec les petits jouets, d'être un petit jouet.
Vers l'infini et au-delà.
Et puis qui n'a pas fait parler ses jouets dans sa chambre,
c'est
petit.
Ça. J'adore, vraiment, c'est extraordinaire. L'idée est merveilleuse et c'est fabuleusement fait. Et puis, Le cercle des poètes disparus, parce que...
Ah, j'étais contente que vous citiez ce film.
Parce que c'est un film incroyable. Captain of My Captain. T'as envie d'avoir un prof comme ça, un adulte qui te guide comme ça. C'était un film incroyable.
Avec Robin Williams et Dano, c'est vrai, c'est une ode à l'école, à l'enseignement, tellement, à l'émancipation. Ouais. Et effectivement, on rend compte qu'on peut avoir la chance de faire dans une vie des guides comme ça, spirituels. Ouais.
Et à l'éducation, à dire on peut faire confiance à un adulte. Et je trouve que
c'est une
grande beauté.
Oh, capitaine, mon capitaine!
Asseyez-vous, monsieur Anderson. Vous entendez? Asseyez-vous! Allons, assis! Est-ce que vous m'entendez?
Oh, capitaine, mon capitaine!
Monsieur Overstreet, je vous ordonne de vous asseoir!
Trop beau.
Ouais. Le film que vos parents ont eu raison de vous faire découvrir?
La Grande Vadrouille. Ça, c'est mon papa, souvent il nous a montré ça, et puis, on se tapait la tête contre les canapés, quoi, tellement je riais. Et c'est devenu même dans notre famille, ce film, on peut même citer, c'était pas 4 ans la guerre, c'était 4 ans. Des fois, d'un coup, sorti de nulle part, on se met à dire des répliques de ce film avec mon père, quoi. Donc,
c'est génial.
C'est un film vraiment mythique dans notre famille.
Mais c'était le plus gros tellement succès du cinéma énorme. Français pendant tellement longtemps, 17 millions de spectateurs. Ensuite, ça a été détrôné par les Ch'tis, puis par Intouchables, mais c'est vrai que c'est resté.
C'est un chef-d'œuvre, quoi. Mon vélo, mes chaussures.
Oui, c'est ça.
Tout. C'était un doudou aussi de se retrouver dans ce film.
Je suis une malade.
Where is the big moustache?
Dans le sauna, ça, dans le hammam.
I don't know, no? I don't understand.
C'est génial.
plus largement, vous êtes fan de Louis de Funès?
Fan absolu. Génie absolu. Génie du jeu.
Le film de votre adolescence?
J'ai dit Pulp Fiction. Parce que d'un coup, c'était waouh. Puis j'avais fait les essais. En fait, à 19 ans, j'étais à New York.
C'est vrai que j'ai lu ça.
J'ai fait les essais de Pulp Fiction. J'ai pas été retenue pour le rôle de Maria de Medeiros. Et c'est un film qui m'a foutu un coup tellement je trouvais ça génial.
C'était
la
très
modernité,
nouveau.
Même le début dans le bar et tout. Hello, this is a robbery. Comment ça part, comment la violence du truc, les personnages libres, fous. Enfin, je trouve le film hallucinant.
Palme d'or à Cannes.
Ouais, aussi, exactement. Ouais,
c'était
Et puis, Les uns et les autres de Claude Lelouch, parce que j'ai une passion Claude Lelouch. Oui. Et
c'est une rencontre importante dans ma
très
carrière, dans ma vie.
Voilà. Et Les uns et les autres, c'est un des films qui m'a donné envie de faire du cinéma, que je voyais à la télévision, pour le coup, avec mes parents. Et puis, que je faisais beaucoup de danse classique, cette petite russe qui dansait, qui se regardait dans le miroir, qui avait envie de quitter la Russie, d'aller en Europe. C'était absolument brillant et c'est un film qui m'a beaucoup marqué dans mon adolescence.
Votre bande originale de films préférée?
Alors, il y a un film qui m'avait marqué aussi adolescente, c'était Il était une fois en Amérique. Je m'identifiais totalement à Jennifer Connelly quand elle danse dans son miroir. Et la musique, je la trouvais extraordinaire. Donc, il y avait ce film-là. Et puis, un film que j'ai découvert plus tard, mais qui me fait des frissons. Et pareil, j'ai envie d'être Barbara Streisand, parce que c'est aussi une idole. Avec Robert Redford, The Way We Were,
Nos plus belles années.
Et c'est deux musiques qui me font des frissons. Mais voilà, j'aurais pu prendre aussi du Francis Lai. Voilà.
Ouais, il y a beaucoup de belles musiques au cinéma, quand même. Et la musique, alors maintenant, on va passer dans une autre émotion, mais la musique qui vous met de bonne humeur?
J'ai envie de dire La La Land, parce que j'adore me réveiller, mettre ça. Dès que j'entends ça, c'est gay.
Ah bah ça donne une bonne impulsion.
Le film de Damien Chazelle, que j'adore. Voilà. You got the invitation, you got the right address. You need the medication, the answer's always yes. A little chance encounter could be the one.
Là, tout de suite, hein, on a envie d'aller prendre une douche, de sauter dans un peignoir, voilà.
J'adore. C'est magique.
Et puis ça continue sans fin, quoi. Ça donne envie de revoir le film, tiens. Et enfin,
j'écoute beaucoup de musique quand je tourne, en fait. En fait, quand je me concentre, j'écoute de la musique.
La musique que vous écoutez pour faire du sport?
Ah, ben j'écoute beaucoup Queen, tout l'album de Queen. Et j'ai une. Comme plein de gens, Bohemian Rhapsody, c'est un chef-d'œuvre, c'est pas une. Mais tout Queen, j'adore.
Bohemian Rhapsody pour faire du sport, ça marche
bien. Ça marche bien, ouais.
On est d'accord.
Ouais.
Moi aussi, j'aime bien. Bon, Elsa, la conclusion, c'est que déjà, c'est très agréable de vous écouter parler cinéma d'avoir quelqu'un, on sent votre amour sincère pour le cinéma et pour ceux qui le font.
Ouais.
Et ensuite, il faut vraiment tourner dans une comédie musicale.
Oh, c'est trop super que vous me dites. Non, il y a longtemps, j'avais été contactée, mais non, ça s'est pas fait. Et quand j'ai vu La La Land, je me dis ah. Et puis le film de Léo Scarrax qui est absolument magnifique.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Qui était à Cannes, que j'ai vu avec Adam Driver et Marion Cotillard.
Annette.
J'ai adoré Annette. Et pareil, ça m'a redonné encore plus envie. J'ai dit mais c'est magique quand ça fonctionne, c'est beau. La vie est plus grande, plus belle, plus forte. Et même tout le monde dit I love you de Woody Allen, pareil. Et je trouve que quand c'est réussi, mais c'est absolument, et ça transmet des émotions fortes et ça parle du monde, de la vie. Et je pense que tu es aussi émue que si c'était une scène simple où il n'y a pas de musique.
Complètement. Et il y a de plus en plus de comédies musicales en France. Donc
regardez Jacques Demy, ce qu'il a fait, c'est absolument prodigieux. La scène quand tu es sur le quai de la gare, quand non, je ne pourrais. C'est absolument merveilleux.
Voilà. En plus, j'entends que vous chantez bien. Donc bon, on va suivre ça de près. Merci beaucoup pour votre sincérité, pour votre bonne humeur. Je rappelle que Tous nos sourires sera à découvrir de toute urgence mercredi prochain, le 20 octobre au cinéma. Vous notez ça dans vos agendas. Et puis restez avec nous dans un instant, on parle des sorties salles de cette semaine, des films à voir au cinéma. Tout de suite, un peu de musique sur Europe 1. Alors Elsa, on écoute la bande originale de film que vous écoutez pour faire du sport et c'est Bohemian Rhapsody.
Allez,
de Queen.
Super. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows, doesn't
doesn't really matter to killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama,
Rhapsody du groupe Queen, la chanson qui met Elsa Silberstein de bonne humeur et qu'elle écoute en faisant son sport.
14h, 15h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Merci d'être avec nous pour cette dernière partie de Clap. On va débattre de l'actualité des sorties cinéma de la semaine dans quelques instants en compagnie de mes deux acolytes, Victor Bonnefoy et Franck Vallière. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Vous êtes en forme ?
Oh là. Oui.
Bon.
Oh là là, c'est indécent.
Voilà une bonne nouvelle. Mais d'abord, moi, j'aimerais faire un petit point sur le box-office. Alors, sans surprise, le numéro 1 du box-office, c'est Mourir peut attendre, le dernier James Bond, avec près de 1 400 000 entrées. Très bon démarrage. Le meilleur depuis Star Wars 9, il y a 2 ans. Le meilleur depuis la crise du Covid devant Fast and Furious 9. Mais c'est pas le meilleur démarrage pour un James Bond. C'est dans la norme, mais c'est un peu en dessous.
C'est pas étonnant. Et puis, on va pas être surpris qu'en période de Covid, certains films ont plus de mal à démarrer que d'autres. Il n'empêche que ça donne quand même des signes d'espoir de voir ce James Bond rouler sur la concurrence. Avec son Aston Martin, ça fait plutôt plaisir.
En même temps, c'est un peu gagné. Hein.
Oh bah, personne n'est particulièrement surpris, soyons très honnêtes.
C'est vrai. Alors, autre bonne nouvelle, Back North, 2 mois après sa sortie, a franchi cette semaine les 2 millions d'entrées. On est tellement contents pour eux. Deuxième plus gros succès de l'année. Et ce week-end, ce sera au tour de Boîte Noire d'atteindre le million d'entrées. Franchement, ça fait plaisir pour le cinéma français.
Ah, moi, ça me fait très plaisir de voir Boîte Noire, justement, qui partait pas forcément gagnant par plein de points, film qui avait été repoussé, etc. De voir, justement, qu'il arrive sur nos écrans et qu'il arrive, justement, à faire quelque chose de fort et à marquer les spectateurs. Ça donne envie d'un cinéma français avec encore plus d'ampleur et on va en reparler même cette semaine.
Et on continue donc de parler du cinéma français avec l'une des sorties très attendues. C'est Eiffel avec Romain Duris dans le rôle du célèbre ingénieur Gustave Eiffel. Film réalisé par Martin Bourboulon à qui l'on doit Les papas ou mamans, qui change donc de registre et s'intéresse à la grande histoire d'amour qu'Eiffel aurait eue et qui lui aurait inspiré la construction de notre célèbre Tour Eiffel. Donc c'est une reconstitution historique, mais c'est surtout une histoire d'amour épique sur fond de Paris brumeux et d'une époque qui nous manque peut-être un peu.
Une tour, 300 mètres. Entièrement en métal. Un défi à la gravité. Aux éléments. Cette tour, messieurs, c'est Paris. Son rayonnement. Sa place dans le monde. Pourquoi tu m'as pas tout dit ?
Lui, il m'aime.
Alors, Franck Vallière, votre avis ?
Alors, est-ce que c'est le biopic vraiment d'Eiffel ou de la Tour Eiffel ? Ça, c'est une bonne question. Le fait est que Martin Bourboulon passe à un registre beaucoup plus épique, populaire et épique, ce qui peut paraître a priori facile, mais qui est très compliqué à faire. Il y a dedans des petites scènes dignes de certains westerns. Il arrive à insuffler souffle épique assez considérable dans le cadre d'un film populaire, et ça, c'est absolument réussi. Quant à savoir si tout est vrai, tout est faux, est-ce qu'il y a de la romance, d'ailleurs, c'est dit...
Ah mais, j'ai la réponse, écoutez-la.
On sait que Adrienne, le rôle que Emma incarne, a réellement existé. Ensuite, on sait que Gustave Eiffel a toujours refusé de faire ce projet quand on lui a proposé. Il était pressé pour cette exposition universelle, on lui a proposé de faire ce projet, on lui a amené le projet clé en main, il l'a refusé, et donc on s'est imaginé, nous, que... il avait pu recroiser cet amour de jeunesse et d'un coup se lancer dans ce projet fou. Et c'est clair qu'il y a cette forme de A.
C'est vrai.
Bon, et donc d'un coup, ça s'est inventé, mais ça fait du bien, comme dit le metteur en scène, c'est le petit sucre du film.
Voilà. Et voilà. On va pas faire un procès en véracité. L'essentiel est qu'il y a du souffle épique et ça amorce en plus la pompe pour Martin Bourboulon qui s'attaquera au diptyque des Trois Mousquetaires l'année prochaine. Mmh. Et ça augure d'un film, encore une fois, qualitativement intéressant tout en étant populaire, non élitiste. C'est un grand film, les reconstitutions sont sublimes, les effets sont incroyables, c'est très joli.
Victor Bonnefoy.
Bah, une chose est sûre, c'est que Martin Bourboulon est un très bon technicien. C'est-à-dire que quand il prend à bras-le-corps cette histoire de la Tour Eiffel, il y a quelque chose dans la photo, moi, que je trouve absolument fascinante. Il ose quelque chose qu'on n'ose plus trop au cinéma, c'est-à-dire aller chercher le sombre, aller chercher justement la noirceur de l'image, aller justement chercher dans des recoins où on a l'habitude maintenant, dans un certain cinéma, de vouloir toujours tout éclairer, tout mettre en lumière. Mais le personnage de Gustave Eiffel est un personnage sombre et vouloir justement jouer sur ce côté sombre de l'image, c'est passionnant. Et c'est d'autant plus passionnant quand on sait qu'il y a eu de la véritable reconstitution avec des vrais morceaux de la Tour Eiffel, on se dit pendant un instant, oh, est-ce que c'est des effets spéciaux? Et puis soudainement, Romain Duris commence à escalader cette Tour Eiffel. On se dit, oh mon Dieu, je regarde des vraies images, j'ai l'impression d'être avec eux. Et ça, c'est passionnant, presque même un peu frustrant parce qu'on se dirait, on aimerait en voir plus de cette histoire de Tour Eiffel, peut-être moins d'amour et plus de Tour Eiffel encore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que visuellement, le film impressionne.
Alors, on va écouter ce que vous en avez pensé.
Très belle histoire d'amour. J'avais pu penser que c'était sur la Tour Eiffel, mais il y a l'histoire d'amour à côté. C'était super.
Visuellement, c'était magnifique et l'audio d'acteur est incroyable. J'étais assez épaté par la construction de la Tour Eiffel et j'ai trouvé ça vraiment bien.
Je suis une inconditionnelle de Romain Duris. J'ai trouvé que cette actrice, elle est vraiment, mais elle est pulpeuse. Par moments, elle m'a fait même penser à Romy Schneider. Il faut que tout le monde aille le voir.
Alors voilà, il faut que tout le monde aille le voir. C'est Eiffel et c'est en ce moment au cinéma. Et puis un autre film qu'il faut découvrir, l'un des films sensations du dernier festival de Cannes, Julie en 12 chapitres. Franck Vallière se frotte les mains, Victor Bonnefoy a le sourire jusqu'aux oreilles. L'histoire d'une femme de 30 ans face à ses choix de carrière et ses choix personnels. Un film passionnant et on va écouter vos avis, messieurs. Victor.
Alors moi je suis très 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 content parce que c'est un film avec lequel je partais pas gagnant. Même quand je l'ai découvert au festival de Cannes, je m'attendais pas à découvrir ça et le film dès ses 10 premières minutes t'emporte. Il y a quelque chose dans le rythme de montage, dans le côté justement volatile des personnages, cette idée justement de les voir voler au-dessus de leur quotidien, au-dessus de leur passion, pas savoir vraiment se situer. Et puis on suit cette Julie pendant 12 chapitres incarnée par Renate Reims, qui est absolument flamboyante, magnifique. On tombe amoureux d'elle au premier regard, comme les personnages masculins du film tombent amoureux d'elle au premier regard. Et justement, elle ne sait pas se situer. Et le film justement ne sait pas se situer, citant parfois Bergman, citant parfois Woody Allen, se retrouvant lui-même perdu dans plein de registres. J'ai vu que la bande-annonce citait notamment beaucoup le côté dramatique du film, mais ce n'est pas qu'un drame, c'est surtout une comédie et c'est un film qui va même tenter des envolées stylistiques. Par l'instant, il y a toute une scène où les personnages prennent de la drogue et on se dit, waouh, je me retrouve dans un autre cinéma. Et c'est ça que fait Julie en 12 chapitres. En parcourant la vie de ce personnage principal, on parcourt le cinéma, on parcourt plusieurs registres, on rit beaucoup, on pleure beaucoup. Julie en 12 chapitres, c'est un immense coup de cœur qu'il y a à découvrir de toute urgence.
C'est absolument l'un des meilleurs films de cette année, indéniablement, qui aspire à la salle. Vraiment, c'est l'endroit, il faut voir ce film, c'est vraiment l'endroit où le cinéma est fait pour cet objet filmique. C'est réalisé par Joachim Trier, à qui l'on doit notamment Oslo 31 août et Thelma, qui sont deux monuments de cinéma norvégien. Enfin, moi, tout ce qui vient d'Europe du Nord, de toute façon, ça me fascine. On l'a dit, Renate est d'une beauté mélancolique absolument délicieuse. Et surtout, il y a un sous-texte qui est hyper intéressant, parce que ça pourrait être une espèce de déclinaison des films de John Hughes des années 80. C'est-à-dire qu'on suit l'abandon de l'adolescence de la part d'un personnage féminin qui va grandir. Alors, quel est le prix à payer quand on passe du temps à se chercher, alors qu'on vit avec des gens qui se sont trouvés? Faut-il renoncer à sa part d'adolescence pour grandir et devenir adulte? Ce sont des questions qui sont soulevées par le film et d'une manière totalement délicieuse.
Alors, est-ce que le public est conquis?
J'ai trouvé ça très bien, mais je suis un peu émue.
C'est un film qu'on attendait quand même pas mal. Enfin, moi, j'ai raté beaucoup d'avant-premières où je voulais y aller. Voilà, et c'est vraiment un très chouette film et avec plusieurs petits rappels et toujours dans des décors splendides. C'est vraiment très sympathique.
C'est le meilleur film que j'ai vu depuis Drive My Car, sauf que l'autre est japonais et celui-là, il est norvégien. Il y a une réflexion métaphysique sur la vie, la mort et c'est extrêmement bien fait. Enfin, ça passe très bien au cinéma.
Bon, ben voilà, ouais. Je crois que...
C'est très intelligent sans être intellectualisant. Et ça, c'est essentiel de le dire.
Et c'est très drôle, surtout, parce que je trouve que la bande-annonce, comme je le disais, n'axe pas assez sur le côté comique du film. On passe par toutes les émotions et c'est absolument flamboyant.
Ne vous fiez pas à la bande-annonce et allez-y, suivez les conseils de Victor et Franck.
Courez le voir.
Et puis, impossible de ne pas mentionner le nouveau film de Ridley Scott, Le Dernier Duel. Voilà, ça se regarde quand même, un Ridley Scott. D'ailleurs, on attend aussi son film sur Gucci, qui va débarquer au cinéma le 24 novembre.
Tout à fait, et Ridley Scott enchaîne avec deux films en deux mois, c'est quand même assez incroyable.
Alors, Le Dernier Duel, Victor Bonnefoy.
Eh bien, assez étonnant, Le Dernier Duel, parce que Ridley Scott, on le sait, a démarré sa carrière avec Les Duellistes, justement. On était en France et il retourne en France avec ce dernier duel, le dernier procès qui s'est joué en duel, où le personnage interprété par Jodie Comer ici nous dit avoir été violé par le personnage de Adam Driver. Et donc, son mari, Matt Damon, va essayer de la venger, de venger son honneur. Mais venge-t-il peut-être plutôt son propre honneur plutôt que l'honneur de sa femme à travers ce duel? Une chose est sûre, c'est que toute la question du point de vue est posée par le film. Globalement, Monsieur Ridley Scott a bien révisé son Rashomon illustré et nous raconte trois points de vue qui vont se confronter. Où est la vérité? Quelle est la véritable vérité? Ridley Scott a toujours une maîtrise de la caméra incroyable. Les scènes de bataille sont d'une folie puissante, folle. On redécouvre des paysages français à travers la caméra de Ridley Scott. Scénaristiquement, en termes de narration, l'histoire est un peu balbutiante par instant et on marche d'étage en étage en étage et on a envie que ça aille un petit peu plus vite parce que 2h30 sont un petit peu lourdes à digérer. Quoi qu'il arrive, il y a un véritable plaisir de cinéma à découvrir sur Les Duels.
Donc plutôt mitigé.
Pas plutôt mitigé, plutôt si vous voulez du grand cinéma flamboyant, le film vous le délivrera et vous délivrera aussi des coupes de cheveux assez improbables de la part de Matt Damon et Adam Driver, et de Ben Affleck aussi. En termes de narration, quelques petits soucis, quelques petites longueurs, mais ça se mange quand même sans fin.
Et vous alors, qu'en avez-vous pensé ?
L'histoire est sympa, après peut-être que j'aurais aimé aussi qu'il soit en français finalement, comme c'est une histoire qui concerne la France. Voilà, pour moi c'est un gros blockbuster en fait, mais c'est sympa, on passe un bon moment.
J'ai plutôt aimé, je pense que c'était vraiment un film féministe à la Ridley Scott, mais c'est plutôt cool, ouais.
Franchement j'ai bien aimé, ça parle en réalité de viol et de la façon dont la parole peut être détournée. Ça redonne vraiment une belle image de la façon dont on peut montrer de manière intéressante les débats d'aujourd'hui avec le passé, c'est vraiment bien.
Merci Victor Bonnefoy, merci Franck Vallière. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux, sur le compte Europe 1, car cette émission, c'est la vôtre et c'est un plaisir d'échanger ensemble. Je vous souhaite une excellente fin de week-end. Portez-vous bien. Tout de suite, on retrouve William Lémergie. À bientôt sur Europe 1 et surtout, évidemment, vous le savez, continuez d'aller au cinéma.